Arc de Triomphe à Melbourne ou à Perth. Sur le chemin du retour, je titube tellement que je dois m'arrêter à intervalles réguliers pour prendre appui contre des murs auxquels je ne cesse de me cogner. Il est tard, le ciel blanchit au-dessus de la mer. J'espère que je pourrai rentrer chez moi sans croiser qui que ce soit de connu et surtout pas des élèves en goguette, ce qui porterait un coup fatal à ma dignité. C'est alors que l'horrible vérité me terrasse. Je viens d'avoir des relations sexuelles non protégées avec deux routardes du stupre, deux dévergondés qui, le long des 15 000 kilomètres de leur parcours orgiaque, ont eu tout le loisir de multiplier les partenaires occasionnels en se montrant si peu sélectives dans leur choix que l'une d'entre elles trouve même tout naturel de coucher avec quelqu'un dont elle ignore jusqu'à l'apparence physique, inconcevable perversion à laquelle seuls peuvent se livrer les pires dépravés, au rang desquels, je ne me compte pas, ayant à l'évidence été la victime innocente d'un traquenard. Il me paraît donc hautement probable, puis tout à fait certain, que les Australiennes sont porteuses d'un cocktail de maladies vénériennes qui viennent tout juste de m'être transmises. Et plus j'avance dans les rues vides de l'aube naissante, plus mon avenir médical m'apparaît sous de lugubres auspices. J'imagine d'horribles virus aborigènes aux mutations mortelles, épouvantes de vérole australe causées par les équivalents bactériens du kangourou ou du diable de Tasmanie. Je redoute tout à la fois une infection foudroyante, et des périodes d'incubation si longues que je développerai les premiers symptômes de la maladie fatale longtemps après que je me serais cru tiré d'affaires. Je devine l'impuissance des traitements antibiotiques traditionnels, l'incrédulité des praticiens les plus expérimentés, les faux espoirs qu'ils entretiennent sciemment avec une jubilation sadique avant de m'annoncer que mon cas est désespéré et de m'abandonner aux affres purulentes de l'agonie. Je vois des légistes hilars penchés sur ma dépouille contaminée pendant une autopsie filmée qui fera de moi la risée de tous les instituts médicaux légaux d'Europe. J'imagine ma verge nécrosée flottant dans un bocal de formol, exposée à un parterre d'étudiants en médecine terrifiés, et je m'endors, finalement, convaincu de mon prochain trépas, couvert d'échymoses, des brûlures et des démangeaisons m'irradiant déjà le bas-ventre. Mais ce n'est pas un astéroïde, et ce n'est pas un séisme, ce n'est pas un raz-de-marée. C'est toujours l'épouvantable superficialité des mobiles humains, leur puissance dévastatrice, leur bêtise. Elle écoute Alexandre Romani pendant sa garde à vue lui expliquer pourquoi il lui a semblé absolument nécessaire d'essayer de tuer Alban Genevet, et elle pense que, finalement, le prix d'une bouteille de vin ne constitue pas une raison pire qu'une autre pour poignarder quelqu'un 4 fois dans l'abdomen avec une lame de 30 cm. Elle lui signale que des témoins font état d'une rixe qui aurait eu lieu la veille du crime. Une rixe qui apparemment n'aurait pas tourné à son avantage. A-t-il des précisions à apporter à ce sujet ? Non. Il la regarde bien en face, les mains crispées sur la table. Il n'y a pas eu de rixe. Les témoins mentent. Il n'y a eu que la bouteille de vin. Il n'a pas cessé d'y penser. Alors le lendemain, il est passé dans sa chambre, chez sa mère, prendre un wakizashi. Et il est parti à la recherche d'Alban Genevet pour le punir. Séverine Bogossian est fatiguée. Elle ne comprend pas pourquoi ce jeune homme qui vient d'admettre la préméditation refuse de reconnaître le seul élément susceptible, sinon de constituer une circonstance vaguement atténuante, du moins de rendre son crime un peu plus intelligible. Elle continue de poser des questions parce que c'est ce qu'elle doit faire. Vous en êtes bien sûr. Comment vous êtes-vous blessé au bras? Où? Quand? Et elle note les réponses, les dénégations répétées. Il n'y a pas eu de rixe. Je suis tombé à moto, je ne sais plus trop quand. Elle le fait ramener dans sa cellule. Un peu plus tard, elle reçoit la mère de son prisonnier à qui elle a demandé de passer à la gendarmerie. Elle doit lui demander si elle s'est rendue compte quand son fils est passé chez elle le jour du crime, qu'il était passé dans sa chambre prendre un couteau dans sa collection d'armes japonaises. La mère blêmit. Vous pensez sérieusement que je l'aurais laissé partir sans rien lui demander? Vous pensez que je l'aurais laissé gâcher sa vie? Je ne pense rien, répond Séverine Bogossian. Je me contente de vous poser des questions et de noter vos réponses, c'est tout. Mais elle ment, car elle pense bel et bien quelque chose. Elle pense qu'aux yeux de cette femme, la vie gâchée est celle de son fils, pas celle d'Alban Genevet, qui l'indiffère totalement. Mais elle ne dit rien. Elle conserve un maintien professionnel et dissimule son exaspération en écoutant la mère d'Alexandre Romani lui expliquer que son fils est un brave garçon. Trop sensible, sans aucun doute. Quelqu'un que les offenses et les marques de mépris blessent davantage qu'elle ne devrait,